C'est donc le deuxième épisode de ce que nous avons commencé l'autre jour avec cette notion de marcher par la foi et non par la vue, qui était basée donc sur 2 Corinthiens 5, 7. C'est par la foi que nous marchons et non par la vue. Alors, un petit rappel donc de quelques points principaux. C'est que nous sommes devenus spirituellement aveugles depuis la chute. On avait vu que le prophète Ésaïe dit: ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu, ce sont vos iniquités qui l'empêchent de vous écouter. Et donc, c'est l'état de ce qu'on appelle l'homme naturel, qui est coupé par son péché de Dieu. On avait vu aussi que même les chrétiens avaient conservé une certaine tendance à marcher par la vue, étant donné qu'ils sont encore sur cette terre. Et on avait vu que c'était quelque chose de vérifiable dans l'histoire de l'Église. Par exemple, les hommes, pendant des siècles, ont utilisé le christianisme, la religion, disons, chrétienne, pour exercer un pouvoir souvent politique, et ça durait jusqu'à il y a peu de temps. Nous avions vu aussi qu'on peut se servir de la, disons, de la religion, entre guillemets, pour des raisons, disons, d'intérêt personnel. Troisièmement, nous avions vu que marcher par la foi, c'était aller à contre-courant du monde, étant donné que notre foi est basée en grande partie sur des choses qui ne sont pas encore entièrement visibles, et que le monde qui rejette Dieu ne se fie qu'à ce monde visible, il nie l'autre, la partie invisible de ce monde. Et donc, quand on est chrétien, on s'expose, disons, à ce que les gens nous regardent un peu de haut et nous considèrent un peu comme des simples d'esprit, alors qu'on avait bien montré que même pour les gens qui ne sont pas croyants et qui se moquent de vous, sous prétexte que nous sommes arriérés parce que notre foi, disons, ne suit pas les critères de la science moderne ou du progrès de la civilisation, nous avions vu qu'au contraire, c'est dans les milieux chrétiens, c'est par des hommes qui marchaient par la foi que tout s'est fait, aussi bien le progrès social que le progrès scientifique. Et on avait listé donné toute une liste de savants chrétiens qui ont fait justement avancer les progrès scientifiques. Et nous avions vu que sans le christianisme, il n'y aurait pas non plus ni d'œuvres de bienfaisance, ni hôpitaux, ni orphelinats et choses comme ça. Nous avons vu donc que ceux qui s'enferment dans ce monde visible en niant la partie invisible des réalités, la partie spirituelle, se condamnent et s'enferment dans des philosophies assez catastrophiques. Et on avait parlé à ce propos donc de ces philosophies style existentialisme, en parlant de Camus et de sa vision d'un monde qui n'a pas de sens, donc un monde absurde et tout ce que cela implique. Mais ce n'est pas notre cas à nous qui avons placé notre foi en Dieu. Nous avons une boussole pour nous diriger pendant notre pèlerinage terrestre. Et cette boussole, c'est la parole de Dieu, bien sûr. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous et qui nous guide si nous sommes nés de nouveau et chrétiens convertis. Et nous pouvons faire entièrement confiance, disons, à la manière que Dieu a choisi de nous diriger par la foi et non par la vue. Parce que il y a une chose qu'on peut affirmer, c'est que c'est Dieu qui nous a créés et que lui seul sait comment nous fonctionnons exactement et lui seul détient le vrai mode d'emploi de ce que doit être notre vie. Et c'est pourquoi le roi David a pu dire « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Nous pouvons en toute confiance suivre ce chemin de la marche par la foi. Mais ce chemin n'est pas toujours semé de roses. Il comporte certaines difficultés qui sont dues en grande partie au vieil homme qui subsiste encore en nous, même si nous sommes convertis. Et nous allons voir aujourd'hui certains écueils, donc à éviter certains pièges sur cette route de la foi. Il y a quatre points, donc quatre écueils que nous devons éviter. Le premier, l'Église est souvent tombée dans un piège, celui du prestige de la tradition, des traditions humaines. Deuxièmement, le prestige des miracles. Troisièmement, le prestige de la raison humaine. Et quatrièmement, le poids aussi de l'exaucement de nos prières. Je vous expliquerai ce que j'entends par là. Le premier point, c'est le prestige de la tradition. Certains croyants semblent attirés par la religion chrétienne, plutôt lorsqu'elle apparaît avec un certain prestige. C'est-à-dire une certaine reconnaissance de la part des hommes, ou encore lorsque les gens trouvent dans une pratique religieuse quelque chose qui parle au sens ou à l'imagination. Par exemple, pendant des siècles, le catholicisme a placé la valeur, sa valeur dans l'ancienneté et le poids de ses propres traditions, et aussi dans la splendeur extérieure de l'Église. C'est-à-dire exactement le contraire de ce qu'a enseigné Jésus. Souvenez-vous du jour où l'un des disciples admirait la beauté du temple, c'est dans Marc 13, versets 1 et 2. « Lorsque Jésus sortit du temple, je cite, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde quelle belle pierre, quelle construction !» Et que répond Jésus « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Bien sûr, il y avait là un aspect prophétique pour l'invasion romaine qui a suivi. Mais c'est aussi un peu comme si Jésus avait dit « Si tu limites le royaume de Dieu à ce tas de pierres, tu te trompes lourdement. » Et on se souvient que Jésus avait dit quelque temps avant que le vrai temple, c'était lui, Jésus. Alors, c'est sans doute ce que dirait aussi Jésus aujourd'hui à ceux qui ne conçoivent pas la vie spirituelle autrement que sous la forme d'un culte, disons, pompeux, ou un peu présenté comme un show à grand spectacle, et ça se fait beaucoup dans les églises. Mais attention, l'inverse de cette attitude existe aussi. Lorsque nous voyons par exemple l'Église faible, obscure, méprisée, est-ce que nous ne sommes pas un peu troublés dans notre foi? Est-ce que nous n'éprouvons pas le désir que l'Église jouisse d'une certaine reconnaissance du monde, du soutien des grands esprits de ce monde? Est-ce que nous ne serions pas, par exemple, ravis de voir débarquer Macron dans un de nos cultes? De même, est-ce que au fond de nous, nous ne désirons pas l'autorité que donne le fait qu'on aurait une église remplie, une foule ici, ou est-ce qu'on ne serait pas content en tant qu'église, de jouir de la faveur de l'opinion publique à Bel Air et au-delà? Alors le fait de désirer ces choses peut nous sembler naturel, mais est-ce que ce n'est pas aussi une manière détournée de marcher plutôt par la vue que par la foi? Cependant, réfléchissez bien. Si pour croire il nous faut le prestige de l'apparence, nous aurions peut-être été déçus si nous avions nous-mêmes vécu du temps de Jésus et en compagnie de Jésus. Jésus était une sorte de marginal, une sorte de SDF. Il est né dans une étable, il était rejeté de la religion officielle. Il a été humilié de bien des manières, et notamment par les occupants romains. Et si on se fie seulement à ce qui frappe la vue, son ministère, selon les apparences visibles par les hommes, s'est terminé par un échec, car aux yeux des hommes, la croix apparaissait comme un échec du ministère de Jésus. Nous devons comprendre donc que la gloire extérieure n'est pas forcément le signe auquel on peut reconnaître la vérité. La vérité sublime de la croix ne peut être saisie que par la foi. La croix du calvaire est le lieu où s'est déversé l'amour de Dieu pour les pécheurs, son pardon et son salut. Mais le plan de salut de Dieu ne s'est pas arrêté à la croix. Dieu a ensuite mis le sceau de son approbation sur le sacrifice de la croix par un miracle unique, la résurrection. Le voile du temple s'est déchiré et nous avons maintenant un libre accès au ciel où Christ siège à la droite de Dieu. En tant que croyants, nous suivrons aussi Jésus dans sa résurrection et nous pouvons prendre pour nous donc cette parole de Paul: si donc vous êtes ressuscité avec Christ, il dit si vous êtes ressuscité, il considère que c'est déjà une réalité pour le chrétien né de nouveau, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, c'est-à-dire les choses encore en grande partie invisible. Donc c'est cela, marcher par la foi, chercher les réalités d'en haut, les réalités qui sont invisibles pour le monde. Nous arrivons au deuxième point, c'est le prestige des miracles. Une autre manière pour nous chrétiens de marcher par la vue et non par la foi, c'est d'accorder trop d'importance aux miracles. Il y a des chrétiens qui sont troublés parce que Dieu ne donne plus à l'Église des signes grandioses aujourd'hui de son intervention, et donc les vérités célestes ne semblent plus être confirmées comme autrefois par des miracles et des prodiges continuels et, on dirait, presque systématique. Et pourtant, on se dit que ça ne coûterait rien à Dieu de continuer à encourager notre foi par ces signes visibles. Le mot grec pour dire un miracle, il y en a trois, mais c'est souvent séméion, signe. Ces signes, donc, pour encourager notre foi. Pourquoi est-ce que Dieu ne déploie pas sa toute-puissance pour venir en aide aux vérités du salut? Il est facile de répondre à cette objection, et nous allons essayer de le faire. Déjà, Jésus lui-même reprochait aux gens qui l'écoutaient le goût du miraculeux, et il leur dit, dans Jean 4, 48, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » Il leur disait, sur un ton de reproche. Donc, il est clair, par ailleurs, que les miracles à eux seuls n'ont jamais converti personne. Par exemple, on voit dans les évangiles des tas de gens qui assistent à des prodiges spectaculaires, des miracles spectaculaires, et qui persistent dans leur incrédulité. Et au contraire, il y a des milliers d'autres gens, on voit ça au début du livre des Actes, qui sont convertis seulement en écoutant des prédications, comme l'apôtre Paul ou celle de Pierre, et sans qu'il y ait forcément de miracle. Voici une autre raison solide de ne pas baser notre foi sur les miracles. C'est de constater que dans les Écritures, il y a une progressivité dans la révélation. Plus la révélation progresse, moins Dieu se montre à la vue, et plus il se révèle à la foi, il se laisse trouver à la foi. Plus au commencement, par exemple, on voit Dieu qui s'adresse au monde, aux hommes notamment, par l'intermédiaire des anges. On voit des signes et des prodiges comme les 10 plaies d'Égypte, la colonne de nuée, la colonne de fumée, de feu la nuit, etc. La manne, il y a plein de miracles. Mais quelque chose semble changer, bien qu'il ait fait des miracles, avec la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Et Jésus nous enseigne que le signe qui atteste le mieux la présence de Dieu et son action, plus que tous les miracles et les prodiges, c'est l'amour. Comment? Par exemple, quand Jean-Baptiste demande à Christ « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus, bien qu'il ait guéri des aveugles, des boiteux, etc., place un argument plus haut que tous les autres, c'est l'évangile est annoncé aux pauvres. Voilà ce qu'il fait répondre à Jean-Baptiste qui lui demande « Es-tu celui qui devait venir ?» Donc aux yeux de Jésus, l'évangile est annoncé aux pauvres et présenté par Jésus comme la preuve suprême de la présence et de l'action de Dieu parmi les hommes. Dieu ne déchire pas les cieux de manière éclatante, il ne donne pas de signe à une génération incrédule, pour employer l'expression de Jésus lui-même. Le seul signe que Dieu donne aux hommes, c'est la croix. Et à ce propos, Eugène Bercier écrit ceci. Si la croix nous laisse insensibles, si nous passons devant elle sans nous laisser fléchir, si nous n'y voyons pas la présence de Dieu et sa miséricorde infinie, est-ce que nous serons davantage touchés si nous voyons un mort sortir du tombeau? Pourquoi donc encore demander encore des miracles aujourd'hui? Nous ne trouverons jamais rien de plus miraculeux que cette preuve d'amour pour nous que Dieu donne le sacrifice inimaginable du calvaire. Les anges eux-mêmes, dit la Bible, désirent y plonger leur regard, car ils n'ont jamais rien vu de plus extraordinaire dans le ciel où ils habitent. Il y a encore une autre manière de marcher par la vue et non par la foi. Ce sera notre troisième point, c'est de demander au christianisme qu'il se justifie complètement aux yeux de notre logique humaine. Le prestige de la raison humaine. Il faut avouer que la foi ne servirait à rien si toutes les vérités bibliques étaient évidentes, prouvables, selon nos critères humains. Ce n'est pas ainsi que Dieu a voulu les choses. Dieu ne veut pas nous faire plier sous l'évidence des miracles. Il ne veut pas non plus nous faire plier notre volonté sous l'évidence des preuves logiques. Ce serait aussi, d'une certaine manière, marcher par la vue et non par la foi. C'est pourquoi vous ne trouverez jamais de démonstration flagrante du christianisme. Cela nous dispenserait de croire et d'exercer la foi. Or, c'est justement ça que Dieu veut, que nous exercions la foi, que nous croyons, que nous marchions par la foi. Dieu veut être saisi par la foi. Pourquoi? Parce que la foi est un investissement de notre être tout entier, et non pas seulement d'une partie de nous-mêmes. Les miracles parlent à nos sens, les raisonnements parlent à notre intelligence. Or, ce que Dieu veut, et c'est là-dessus qu'il faut insister, ce n'est pas ça, c'est notre être tout entier. Et en particulier notre être moral qui s'oppose à lui et qui lui résiste depuis la chute à cause du péché et de notre révolte. Dieu veut que nous nous donnions librement à lui et non pas sous la pression de raisonnement ou de miracle ou de quelconque. Dieu veut que nous nous donnions librement à lui et c'est seulement par la foi que cela peut se faire, parce que notre foi implique que nous avons une absolue confiance en lui. En hébreu et en grec, c'est le même mot qui veut dire foi et confiance. Et Dieu donc veut être saisi par la foi. Voilà pourquoi il a permis que tous nos systèmes théologiques, même les meilleurs, soient bien loin d'être parfaits. Il veut que nous gardions une certaine fragilité pour que nous puissions rester humbles. Certainement que la Bible nous humilie elle-même sur bien des points que nous avons du mal à comprendre. Et que c'est certainement même ça voulu par Dieu. Donc tous les systèmes théologiques humains sont dépassés par Dieu et son être infini et ses actions incommensurables. Et cela devrait nous rassurer et non pas nous inquiéter. Bien plus, le fait que notre Créateur nous domine et nous dépasse de tous les côtés devrait être pour nous une profonde source de paix. Un peu comme un enfant qui, devant le danger, court se réfugier dans les bras de son père. Pourquoi? Parce que son père est plus puissant, plus intelligent, beaucoup, de beaucoup, que lui, enfant. La Bible dit, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Et nous devrions nous en réjouir et avoir d'autant plus confiance en lui. Il est tout-puissant et capable de mettre en échec la méchanceté de tous les démons de l'enfer. Et pour conclure sur ce thème de la raison humaine, souvenez-vous de ce que disait le grand savant chrétien Ampère, que nous citions l'autre fois, preuve d'humilité, que Dieu est grand, que Dieu est grand, et que notre savoir est petit. Si on vous présente une religion ou un Dieu taillé à la mesure de votre intelligence, alors vous serez déçu et vous pouvez commencer à vous méfier. Il existe des milliers de religions. Ce sont des religions que les hommes ont eux-mêmes taillées à la mesure de leur compréhension et à la mesure de leurs sentiments et à la mesure de leurs désirs. Malheureusement, nous voyons le fruit de ces religions aujourd'hui sur cette terre. Mais heureusement pour nous, Dieu ne se laisse pas enfermer dans la boîte, dans la petite boîte de notre compréhension et de nos désirs ou de nos lubies. Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses, dit l'Ecclésiaste. Ça nous rabaisse le caquet et ça rabaisse un peu nos prétentions à la sagesse. Quatrième point et dernier point, le poids de l'exaucement des prières. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une autre façon, peut-être, pour nous, de marcher par la vue et non par la foi. Ce serait d'imaginer que Dieu accorde des délivrances systématiques et qu'il suffit d'appuyer sur le bouton pour recevoir des réponses à nos prières. Une des choses qui nous trouble souvent, c'est justement de voir que nos prières restent sans réponse pendant des semaines, des mois ou même des années, comme la mère de Saint-Augustin qui a prié plus de 30 ans pour sa conversion, qui ne venait jamais. Elle a bien fait d'insister. Si Dieu procède ainsi, c'est certainement aussi pour nous apprendre, c'est une pédagogie, s'il ne répond pas tout de suite à nos prières, s'il ne répond pas de la manière que nous voudrions qu'il réponde à nos prières, etc., etc. C'est par pédagogie, certainement que ça nous aide à avancer dans une foi plus mature et plus parfaite, si on peut dire. Imaginez une vie où nos prières seraient immédiatement exaucées et nos prières amèneraient toujours la délivrance. Tout le monde voudrait être chrétien dans ces cas-là. Mais ce serait par intérêt. Or, est-ce que c'est le genre de relation que Dieu veut avoir avec nous? Certainement pas. Certainement pas. Parce que ce serait marcher encore par la vue et non par la foi. L'état d'esprit intéressé, c'est plutôt ce que Dieu veut tuer en nous. Et que nous devrions nous efforcer de mettre à mort, de mortifier, comme on dit, jour après jour. L'amour intéressé. Dieu a beaucoup plus d'ambition pour nos âmes. Il veut rendre notre âme capable d'un amour entièrement désintéressé. Et de plus, lorsque Dieu semble résister à nos prières, ce qu'il veut, c'est certainement approfondir notre maturité chrétienne, nous apprendre la patience, etc., etc. Et il peut le faire pour d'autres raisons que ça. Regardez la vie de Job. Il y a d'autres raisons qui ne sont pas forcément visibles pour nos yeux. Pour Job, ses souffrances et les causes de ses souffrances, on l'avait dit l'autre fois, n'étaient pas visibles pour les yeux, pour ses yeux à lui. Mais Dieu nous a dit ce qui se passait dans les coulisses, donc, du ciel, les coulisses invisibles, et pourquoi il permettait au diable d'éprouver Job. Voilà, donc, si Dieu résiste à nos prières, c'est pour nous faire avancer dans la foi, paradoxalement. Souvenez-vous, par exemple, c'est un autre exemple, la Cananéenne qui demande à Jésus de guérir sa fille tourmentée par un démon. C'est dans Matthieu 15, à partir du verset 22. Qu'est-ce qu'elle aurait obtenu si elle n'avait marché que par la vue? Elle n'aurait rien obtenu du tout. En effet, regardez, si vous avez le texte, comment Jésus l'accueille. Il l'accueille avec froideur. Le texte dit au verset 23, Matthieu 15, 23, il ne lui répondit pas un mot. Et quand il lui répond, il semble la rejeter. Au verset 24, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. On dirait qu'il veut la décourager. Il n'est pas bien, il ajoute, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Imaginez un peu. Si la Cananéenne s'était arrêtée à l'apparence visible et audible, les choses en seraient restées là. Mais sa foi est passée au-delà des apparences, outre les apparences, pour aller toucher le cœur de Jésus. Par son insistance importune, comme dans le juge inique, la parabole du juge inique. Est-ce que ce n'est pas cela que Dieu veut pour nous, que nous nous emparions du royaume de Dieu par la violence de notre foi? Peut-être, et même, je dirais, certainement. Nous devons donc accepter sa pédagogie et sa discipline paternelle, parce que c'est ainsi que Dieu, notre Sauveur, nous forme et nous prépare à entrer dans l'éternité. Et nous arrivons en direction de la conclusion. Devant le passage ultime de la mort, il nous sera impossible de marcher par la vue. Personne ne peut voir de l'autre côté. J'allais dire, car personne n'en est revenu. C'est faux. Jésus en est revenu. Christ est passé au-delà et il en est revenu. Et c'est pourquoi nous pouvons mettre une totale confiance en lui et dans ce qu'il a dit notamment. Au larron sur la croix, au larron repentant, il lui a dit, je te le dis en vérité, tu seras aujourd'hui même avec moi dans le paradis. Si donc nous sommes repentis de nos péchés et que nous plaçons notre foi en Christ comme le larron repentant, nous pouvons croire ces paroles pour les prendre à notre propre compte. La mort ne doit pas être pour nous un objet de crainte. Elle est certainement remplie d'apparences terrifiantes, mais ce ne sont que des apparences. Et si nous marchons par la foi, nous devons passer outre ces apparences. Et l'apôtre Paul nous rassure. L'apôtre Paul, souvenez-vous que lui aussi a rencontré le Christ, mais pas sur la croix. Il a rencontré le Christ après la résurrection, le Christ ressuscité. Et c'est de Jésus-Christ lui-même que l'apôtre Paul tient son ministère. Or, nous pouvons le croire, donc, parce qu'il sait de quoi il parle, il a dit dans le contexte du texte de 2 Corinthiens 7 que nous avons discuté tout à l'heure, dans ce contexte, il nous dit, dans 2 Corinthiens 6, le verset précédent, il dit, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Il nous donne en quelque sorte envie de passer de l'autre côté de la mort. Et il ajoute au verset 8, un verset après notre verset d'aujourd'hui, il ajoute, nous sommes pleins de confiance et aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est formidable d'arriver à ce point de désirer presque mourir, parce que c'est ce qui semble ressortir de ces paroles de Paul. Donc, je pense que nous aussi, nous devons être pleins de confiance, surtout sachant que Dieu nous a donné aussi une autre parole dans un psaume. C'est le psaume 23, je crois. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour toutes les consolations que tu nous donnes dans ta parole et toutes les certitudes de ce que nous ne voyons pas encore. Seigneur, nous savons que le jour où nous serons sur notre lit de mort, nous n'aurons rien à craindre des apparences. Et nous savons que nous pourrons traverser ce Jourdain de la mort en toute confiance en toi, car nous serons dans ta main. Seigneur, nous sommes dans ta main, quoi qu'il en soit. Que nous soyons vivants ou que nous soyons morts, nous serons éternellement dans ta main. Et nous nous réjouissons de cela, car Seigneur, nous avons vraiment décidé de placer notre foi dans tout ce que tu nous dis, tout ce que tu nous promets dans ta parole et dans tout ce que nous avons vu aussi, puisqu'il est vraiment constatable que Christ est ressuscité. Et ça, c'est quelque chose que tu nous as manifesté aussi pour nous encourager dans la foi. Quand tu dis que Christ ressuscité est apparu à plus de 500 témoins, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Et Seigneur, nous croyons que Paul qui dit cela, vraiment ne parlait pas en l'air. Et nous te sommes reconnaissants que toutes ces paroles que nous entendons ne sont pas des paroles en l'air, mais la vraie réalité que tu as voulu nous communiquer. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Amen. Je vous propose un dernier chant, qui est un chant d'aspiration pour le retour justement de Christ. Oh, viens bientôt, Emmanuel. J'ai oublié de noter le numéro
142.
242.
100.
142, pardon.